12e jour. Défenseur lucide de l'Église. Je cite. Si l'Église du Christ, animée d'une bonne intention, parvient à un accord de tous sur un point quel qu'il soit, touchant l'honneur de Dieu ou l'âme de l'homme, il est impossible que sur ce point, elle ne soit point dans la vérité. Car le Saint-Esprit de Dieu, qui anime son Église et lui donne la vie, ne permettra jamais qu'elle parvienne à un consentement unanime et s'accorde tout entière sur une erreur condamnable. La défense de l'Église catholique par Thomas More s'est poursuivie pendant une quinzaine d'années sur deux thèmes assez distincts, mais en fait complémentaires. Pendant une première période, More, proche de son roi, fut le défenseur de l'Église face aux thèses de Luther. 6 ouvrages d'apologétique sont rédigés en anglais par More pour défendre l'Église contre les attaques des réformateurs. Ils étoffent la position qu'il a prise en 1523 dans sa « Réponse à Luther » pour justifier l'écrit de 1521 du défenseur de la foi, Henri VIII, « Défense des 7 sacrements ». Dès cette époque, Thomas More fait une distinction très nette entre la primauté spirituelle du pape et son autorité temporelle. Il avait d'ailleurs mis en garde le roi qui, à son avis, avait exagéré cette autorité temporelle dans sa défense de 1521. Thomas More s'engage totalement dans la défense de l'Église catholique quand Tunstall, évêque de Londres, le mandate le 7 mars 1528. Toi, frère bien-aimé, qui es le défenseur le plus ardent de la foi catholique, tu ne saurais mieux employer les heures de loisir que tu peux dérober à tes occupations qu'en faisant paraître dans notre langue des livres qui découvriront aux gens simples et sans culture la fourberie des hérétiques. N'hésite pas, aide l'Église de Dieu de toute ton autorité. Je t'en supplie au nom du Seigneur. More se met aussitôt à l'œuvre. Dès 1529 paraissent le dialogue concernant les hérésies et la supplication des âmes. Mais il refuse toute rétribution pour ses écrits ecclésiaux, contraignant les évêques à rendre l'argent collecté pour le remercier. Cette défense est sans indulgence, comme celle de Saint Bernard, celle de Gerson ou celle d'Erasme dans l'éloge de la folie, à l'égard des défaillances et des scandales, les plaies de l'Église. More fait dire aux âmes du purgatoire, je cite, « Le luxe et la pompe ecclésiastique endommagent gravement le bien commun. Loin de nous toute envie de défendre les vices, les fastes et le désordre du clergé. Plût à Dieu que le clergé fût moins mondain et le laïcat aussi. Si les uns comme les autres passaient seulement une demi-heure avec nous, ils seraient guéris à tout jamais de leur attachement aux vanités terrestres, et ils feraient peu de différence entre une chemise de soie et une chemise de crin. Ou bien, avec son humour habituel, More compare la complaisance de certains clercs à celle d'une mère de famille qui gâte trop son enfant. Je cite, pourvu qu'elle le voit joyeux au départ et qu'il ne pleure pas à la maison sous ses yeux, elle ne cherche pas plus loin, bien que son retard lui vaille des coups à son arrivée à l'école. Cette méthode est hélas courante chez les religieux mendiants et parmi les chapelains des seigneurs. Quand ils tranquillisent des grands auxquels ils sont peu enclins à déplaire, je ne saurais les louer d'agir ainsi, mais il est hélas trop vrai qu'ils agissent ainsi. Pour mort, l'Église est sainte, non parce qu'aucun de ses membres ne commet de péché, mais parce qu'il n'est aucun saint sur la terre qui n'en soit membre. Une consigne du Christ a appris à ses apôtres à dire à Dieu « Pardonnez-nous nos offenses ». Il y a des ulcères sur ce corps, l'Église, et pourtant même les parties atteintes ne sont pas dénuées de vie. Elles sont alimentées et réchauffées par l'Esprit de Dieu qui anime et conserve l'Église. Mort donne souvent l'exemple de Pierre, homme pécheur auquel le Christ a confié l'Église. Il renvoie également aux paraboles du champ où l'ivraie se mêle au froment et au filet où il y a des bons et des mauvais poissons. Répondant à l'objection de ceux pour qui les clercs se considèrent comme les seuls représentants de l'Église institution, Mort refuse, 500 ans avant Vatican II, d'opposer clercs et laïcs. Je cite, « Le plus pauvre des hommes est tout autant membre de l'Église que le pape. » Fin de citation. Sûr de l'assistance perpétuelle du Christ à son Église et de l'action du Saint-Esprit, qui habite dans l'Église et lui enseigne à discerner la parole divine de la parole humaine, Mort, témoin engagé avec toutes les ressources de son intelligence et de sa culture théologique, est le défenseur infatigable d'une Église attaquée sur tous les fronts. Deuxième période, à partir de 1533, ne pouvant heurter de front un roi schismatique, Mort se concentre sur la présence réelle et la communion eucharistique. Il revient néanmoins sur l'unité ecclésiale en exposant sa pensée dans une longue lettre écrite à Cromwell le 5 mars 1534, un mois avant son emprisonnement. Je cite, « Puisque toute la chrétienté est un seul corps, je ne peux pas percevoir comment un de ses membres peut, sans l'accord commun du corps, conciles généraux et consensus du peuple, se séparer de la tête commune, le pape. La décision du roi de rompre avec Rome pour être nommé avec la soumission des évêques anglais chef suprême de l'Église d'Angleterre, et ceci afin de pouvoir répudier la reine Catherine et d'épouser Anne Boleyn, Thomas More ne peut l'accepter. Il déplore que le schisme anglican, s'ajoutant à celui des orthodoxes et des protestants, déchire l'unité des chrétiens, la robe sans couture du Christ. Sur les raisons de refuser la mainmise de la couronne sur l'Église, Mort ne dit rien. Mais son silence est assourdissant. C'est bien ce silence que le roi pense faire oublier en condamnant son ex-chancelier. Mort, de plus en plus isolé, voit bien l'alternative. Je cite, « Je perds ma tête corporelle si j'obéis à ma conscience. Je perds ma tête spirituelle, le Christ, si je lui désobéis. Or, sans cette tête, nul n'entre au ciel. » Fin de citation. Il choisit le ciel et va jusqu'au bout de son témoignage en faveur de l'Église. Le martyr. Il peut alors, le jour de son exécution, prendre à témoin les spectateurs et dire « Je meurs dans et pour la foi de l'Église catholique. » Dans ce 21e siècle, où l'individualisme est premier, où l'idée même d'appartenance et d'obéissance à l'Église est méprisée, voire ridiculisé, comment réagissons-nous lorsque celle-ci nous dit que c'est bien toute l'Église dans tout son être et tout son agir qui tend à promouvoir le développement intégral de l'homme. Acceptons-nous de vivre comme un disciple du Christ, tête de l'Église qui nous dit « Venez et voyez, je suis le chemin, la vérité et la vie ».